Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Salut Luc.
Salut Patrick.
Donc, tu as écouté la mise au point, la mise à jour de François Bonnardel, le ministre des Transports, sur le point de l'île aux Tourtes. Qu'est-ce qui t'a frappé là-dedans?
Le jour de la marmotte, c'est ça qui m'a frappé. T'as l'impression d'entendre la même conférence de presse que t'as entendue en 2006, en 2007, en 2008, jusqu'en 2021. Puis que tu vas entendre aussi pour les prochaines années, où t'as un ministre qui a l'air aux commandes, puis qui dit « on fait tout ce qu'il faut pour rouvrir les voies le plus rapidement possible. Nos équipes travaillent d'arrache-pied, nos ingénieurs sont sur le terrain. On a fait appel à tous les producteurs, les fournisseurs d'acier au Québec pour travailler sur les étriers qui vont entourer les... » Hey, tu te dis « c'est du bon monde, c'est du bon monde, ça travaille fort. » Mais comment ça se fait que ça revient chaque année, par exemple? C'est cette espèce d'impression-là d'être au poste, d'être en train de régler un problème, le même problème qu'on a entendu sur le pont Mercier année après année. Rappelle-toi, il fallait rouler une voie dans chaque direction parce que les poutres les plus excentrées par rapport au centre étaient fragilisées. Les mêmes problèmes qu'on a entendus par rapport au pont Champlain, le tunnel Ville-Marie, les paralunes, tu te rappelles? Oui. Gérald Tremblay qui était sur place, puis oui, puis posait des questions aux ingénieurs. Avant la réfection de Turcot, l'échangeur Saint-Pierre, à chaque année, on a des surprises à chaque année. Puis, et là, c'est juste une partie. Ça, c'est quand il y a des fermetures complètes. Parce que quand c'est pas des fermetures complètes, on en entend moins parler. Quand c'est des réparations qui sont faites d'urgence la nuit, mais pendant des nuits de suite ou pendant des étés les uns après les autres, on en entend moins parler. Mais c'est une question d'usure des installations, de vieillissement prématuré. Parce que la majorité de ces ponts-là, ils ont juste 41 ans. La moyenne a 41 ans. Il y en a qui ont 56 ans, etc. C'est supposé durer plus longtemps. Mais à cette époque-là, on construisait pas pour le sel. On n'avait pas prévu ça. Le pont Mercier, c'est ce qui l'a coulé d'ailleurs. Mais surtout, on a un réseau routier qui, avec de plus en plus de voitures, à chaque année une augmentation du nombre de voitures, un réseau routier qui augmente en taille aussi parce qu'on construit des nouvelles routes, et on ne voit pas la fin de cette affaire-là. Et là où M. Bonnardel veut être rassurant, c'est de dire « oui, mais on met plus d'argent que jamais. Cette année, ils ont rajouté 4,5 milliards sur le déficit des installations. » Correct. C'est bon, c'est super. Avec ces milliards-là, ce que ça va donner, c'est que d'ici 10 ans, on devrait avoir comblé 78 % du déficit. Mais sauf que d'ici 10 ans, il va s'user d'autres routes, beaucoup d'autres routes. Alors, on n'en voit pas la fin. Et j'aurais aimé une analyse structurelle, profonde, approfondie. C'est pour régler le problème une fois pour toutes, là. Une fois pour toutes, là, comment on fait? Pas juste moi, mais nous, on fait des efforts, les autres n'en ont pas fait avant nous. Correct, correct, on l'a entendu. Mais on fait comment? On fait comment, là? C'est vous qui êtes en poste, là? Alors, vous faites comment? Regarde, les dépenses par habitant, les dépenses par kilomètre de route. Québec, 7 900 New York, 30 000 par année. 7 900 versus 30 000 Vermont, petit État pauvre des États-Unis, 16 000 plus que deux fois plus que nous. Pourquoi? Parce qu'on a trop de routes. On en a trois fois plus que l'Ontario. 270 km de route par habitant au Québec. 270 habitants par kilomètre de route au Québec. 700 en Ontario, 4000 en Californie. Donc, c'est plus possible de sortir de l'argent de nos poches pour réparer ces maudites routes-là. Alors, j'aimerais que le ministre là, arrête de sortir par toutes les portes possibles d'urgence, puis l'aération du building, puis tout, puis qu'il nous dise là, si on est capable de régler seulement 78 % du déficit d'infrastructure, malgré les sommes que vous mettez, et parce qu'il y a usure prématurée presque toujours plus rapide que ce à quoi on s'attend, c'est quoi la solution? J'aimerais ça qu'il réponde à cette question-là.
Toi, tu trouves qu'il répond pas à cette question-là qui est fondamentale?
Il n'y répond pas. Bien entendu qu'il n'y répond pas. Et il y a une question corollaire qui est l'argent qu'on met dans les routes, il y a toujours bien une limite. Là, quand tu regardes, quand tu compares avec le réseau, compares le réseau routier avec le réseau de l'éducation, par exemple. Oui, il y a des efforts exceptionnels qui sont faits dans les infrastructures scolaires avec 3 milliards qui ont été promis par M. Roberge. 3 milliards, c'est une année de réparation du transport de nos routes. Le programme de maison des aînés, qui est tout à fait insuffisant là, pour régler la question du logement pour les aînés en perte d'autonomie, c'est aussi 3 point quelques milliards de dollars. C'est une année de réparation de nos routes. Alors, est-ce que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est une année de réparation de nos routes. Pourtant, on leur porte la réparation de cet hôpital-là, puis on leur porte, puis on leur porte, puis on leur porte. Puis là, ça s'est rendu que ça tient avec du tape puis de la broche. Mais est-ce que, comme homme rationnel, comme ministre en poste responsable, il peut nous dire s'il est satisfait de cette situation-là, lui, ou s'il en souffre? Puis est-ce qu'il est prêt à envisager d'autres solutions? Je sais que la CAQ ne voudra jamais mettre de péage. Mais pourtant, les péages, là, ça fait deux choses à la fois. Un, ça permet d'accumuler des fonds pour réparer les infrastructures. Deux, ça permet de diminuer le nombre de personnes sur les routes au lieu de l'augmenter année après année après année, parce que ça augmente au Québec année après année. Les gens augmentent en termes d'une voiture, puis aussi en termes de distance parcourue. Pourquoi? Parce que ça coûte rien. Si ça coûtait quelque chose, on serait peut-être capable, il y aurait peut-être un peu de restriction, puis peut-être qu'on a besoin de ça. Je le sais que c'est pas le fun politiquement, mais on n'est pas des enfants. Les gens qui font aujourd'hui, là, ce matin, là, c'était une heure de transport à Vaudreuil, une heure de transport à Vaudreuil par kilomètre. Est-ce que ces personnes-là n'auraient pas dit, ben, sais-tu quoi? Petit péage qui nous aurait empêché d'arriver à cette situation-là, peut-être que je dirais oui.
Mais tu le sais comme moi, tu sais, aussitôt que tu parles d'hausser les taxes, les impôts, les tarifs, je veux dire, politiquement, t'es aussi bien de dire, tu veux pas te faire élire.
Il y a ça.
Parce que toi et moi, on parle de ça. Toi, t'as été maire du plateau, ouais, t'as jamais ça. Eu à faire face à ça. Je veux dire, quand tu veux te faire élire au provincial, je suis d'accord avec toi, là. Sur le péage, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens qu'on puisse partir de Gatineau, aller jusqu'à Natashquan, à peu près pas payer une scène.
Sur des routes pourries.
Oui, sur des routes pourries, en termes d'utilisateurs payeurs.
Ouais.
Mais je veux dire, toutes les fois que je parle de ça, Luc, je me fais dire, on paye déjà.
Oui, on paye déjà, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la situation telle que je viens de l'exposer. On est moins d'habitants par kilomètre de route, puis nos routes, d'une part, puis donc on met moins d'argent sur nos routes, d'autre part, beaucoup moins d'argent. Cette réalité-là, là, c'est pas à faute du ministre, OK? C'est pas sa faute. Lui, il faut qu'il cherche des solutions. Puis à un moment donné, ta job, quand t'es un élu, c'est pas juste de flatter le monde dans le sens du poil. C'est de dire, écoutez, faisons face à nos responsabilités. Ils l'ont fait pendant la pandémie. Ils ont dit, OK, on va tous mettre un masque, on va rester chez nous. C'est ça, nos responsabilités. Tu me diras, c'est une situation de crise. Celle-là aussi, c'est une situation de crise. C'est pas la même crise, pas la même ampleur de crise. L'autre, c'est une crise mondiale, etc. Mais la job, c'est aussi de prendre les gens pour... Ils sont des adultes. Nous sommes tous des adultes. Puis il n'y a personne qui pense que rien n'est gratuit. Et tout le monde fait des réparations à sa maison, puis il voit bien comment que ça coûte. Mais c'est ça la question, c'est ça le discours. C'est pas de sa faute, mais c'est de sa responsabilité. Une méchante différence, ça. C'est pas de sa faute, mais c'est sa responsabilité.
Il y a quelqu'un qui m'écrit, dites à Ferrandez que la solution est de couper des transports en commun que personne ne prend.
Ben écoute, là c'est vrai que pendant la pandémie, il n'y a pas grand monde qui prend les transports en commun. Mais monsieur, madame, si vous promettez de vous faire vous rincer la bouche avec un rince-bouche puissant, j'accepte de prendre le transport en commun avec vous en temps normal parce que je vais avoir votre haleine à un pouce de moi pendant le métro. Parce que on est collés comme des sardines dans le métro, puis heureusement qu'on est collés comme des sardines parce que chaque personne collée contre son voisin enlève une voiture sur la route. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut enlever des voitures sur la route pour que les véhicules d'urgence, les véhicules de service, le transport en commun et les gens qui travaillent aussi ils puissent l'apprendre. Ou les gens qui peuvent pas s'en passer. Il y a des gens qui travaillent sur la route. Il y a des gens qui travaillent très, très loin de leur lieu de résidence. Il y a des gens qui sont obligés de faire trois arrêts. Tous ces gens-là ont besoin d'une voiture. Il n'y a aucun doute. Pour que ces gens-là puissent utiliser correctement la route, il faut que nous, qui n'en ayons pas besoin, n'en avons pas tous besoin, on prenne le transport en commun et qu'on se fasse offrir un transport en commun qui a de l'allure. Alors, si on fait ça, on va avoir une région qui est à peu près capable. Puis ça peut marcher, là. C'est possible que ça marche. Des solutions où l'État met ses culottes puis fait les bonnes choses au bon moment, ça arrive au Québec. Ça s'est passé des milliers de fois. Ça s'est passé dans l'électrification avec Hydro-Québec. Ça s'est passé dans la gestion de la vente d'alcool, dans la loterie, dans plein de domaines. Il y a eu des paramunicipales, il y a eu des entreprises québécoises qui ont trouvé la solution au problème puis qui l'ont mis en œuvre puis ça a marché. Puis on peut le faire pour les routes aussi. Arrêtons de se gratter le bobo puis de se dire, mon Dieu, il n'y a rien à faire, puis qu'est-ce que tu veux, on n'acceptera jamais de payer de péage, puis que c'est comme si on paye déjà assez de taxes. Ouais, ben, tu sais ce qui va se passer? L'an prochain, ça sera pas Mercier, ça va être La Fontaine. Puis après, ça sera pas La Fontaine, ça va être la Métropolitaine. La Métropolitaine, je suis pas mal sûr que c'est son tour, puis ça prendra pas de temps. Alors, moi, à un moment donné...
Ce que tu me dis, c'est que quand je vais rentrer au CHSLD, il va encore avoir des cônes oranges partout.
Je suis pas mal certain qu'il va y avoir encore des... Ben, regarde, les chiffres sont là. On a une grande province. Elle est immense. Elle est immense. Puis, il y a des cycles de gel, des gels qui sont rapides et fréquents, et de plus en plus fréquents. Je me promenais dans une route en Californie, à un moment donné, l'asphalte craquait sous les pneus de vélo. Ça veut dire que c'était trop tôt, t'es même pas capable de supporter le poids d'un vélo, mais la route était impeccable. La route était impeccable, il y avait un pouce d'asphalte, mais était impeccable. Parce que il y avait un sol sec en dessous, qui était stable, mais c'est pas de même au Québec. C'est pas de même. Alors, qu'est-ce que tu veux? Pas faute à personne, là. C'est que si Cartier avait voyagé à l'envers de l'hiver, là, ben, il a voyagé dans le sens de l'hiver, puis qu'est-ce que tu veux, on est pogné avec ça. Mais là, faut qu'on y fasse face.
Écoute, comment tu vendrais ça, le péage?
Demain, un péage.
Ouais, mais tu veux être réélu. Oui, mais en même temps, Luc, faut que j'explique quelque chose aux gens. Ouais. La première fois que je t'ai interviewé, là, tu venais d'être élu maire du plateau, puis tu m'as dit, regarde, on a peut-être l'air d'être des radicaux, là, mais nous, on se dit que les gens vont nous mettre dehors après un mandat. Fait qu'on fait tout ce qu'on a à faire présentement.
C'est ça. Mais faut que tu fasses ce que t'as à faire. C'est pas grave. Il va s'en trouver un autre job, Bonnardel. Voyons donc. Voir si ça y tente, lui, de faire des conférences de presse pour expliquer aux gens qu'il va être pogné encore dans le trafic par-dessus la tête. Puis la 40, ça s'en vient aussi parce que dans la solution qui a été déposée, ils vont libérer une voie sur la 40 pour laisser passer les véhicules d'urgence. Fait que la 40 aussi va être bouchée d'aplomb. Donc, voir si ça y tente, lui, de faire ça toute sa vie. Ben, au moins, pendant le temps que tu vas avoir été là, adopte une solution. Pas une solution coupe-gorge. Pas une solution qui égorge le pauvre contribuable ou la pauvre contribuable qui a réussi à bout de bras à s'acheter une voiture pour avoir une job, puis qui est obligé de s'acheter une maison loin parce que c'est plus achetable, proche de son lieu de travail. On veut pas couper la gorge à personne, là, on veut pas écraser personne. Là. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de trouver une vraie solution.
Merci, Luc.
Merci à toi.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Vous vous souvenez peut-être qu'à la mi-avril, là, j'ai interviewé une journaliste d'enquête française à propos de la possibilité que le coronavirus SARS-CoV-2 ait été peut-être créé, une créature de laboratoire, que ça se serait échappé de Wuhan en Chine, où il y a un labo, semble-t-il, de virologie très connu et qui est aussi le point zéro de la pandémie mondiale. Le Wall Street Journal reprend ces derniers jours là, les thèmes de l'enquête de la journaliste Virginie Villard qu'on avait accueillie sur nos ondes. Et dans ce reportage de Mme Villard, il y avait un chercheur du nom de Bruno Canard. Il est virologiste et directeur de recherche au CNRS, Centre national de recherche scientifique à l'Université Aix-Marseille. Il témoignait dans ce topo. On va écouter un extrait de ce qu'il disait.
Ça m'inspire que à l'heure actuelle, où il y a eu 100 millions de cas, 2 millions de morts et énormément de misère créée par ce virus et énormément de problèmes dans son ensemble pour le monde entier. La moindre des choses, c'est que l'ensemble de la communauté scientifique puisse faire une investigation ouverte de ce qui s'est passé.
Le virologiste Bruno Canard est au bout du fil. Docteur Canard, bonsoir.
Bonsoir.
En l'état actuel des choses, pensez-vous que le SARS-CoV-2 est un virus qui s'est échappé du laboratoire de Wuhan?
Donc, c'est une possibilité qui existe et qu'il est impératif de pouvoir investiguer, hein, effectivement infirmer ou confirmer. C'est une possibilité. Le virus peut avoir été créé naturellement dans la nature et donc être passé à l'homme à la suite de plusieurs événements qu'on ne connaît pas, ou avoir été d'abord collecté dans le laboratoire, probablement un des laboratoires de Wuhan, et être passé accidentellement à l'homme. Donc il est nécessaire, pour mieux effectivement comprendre d'où viennent ces virus et comment contrôler ces épidémies, il me paraît nécessaire, pas qu'à moi d'ailleurs, de comprendre quelle est effectivement l'origine du virus.
Docteur Canard, qu'est-ce qui, pour vous, là, comme chercheur spécialisé en coronavirus, en virus, donne à penser qu'il y a matière à enquête?
Alors, il y a trois points, je dirais, de vue qui nécessitent d'être investigués. Et le premier, c'est un point de vue politique. Effectivement, il y a des omissions, des dissimulations, des entraves à l'enquête de la part de nos collègues chinois, enfin de la part du gouvernement chinois en particulier. Ça, c'est un point de vue, un point d'attaque politique. Ensuite, il y a, d'un point de vue scientifique, il y a effectivement des choses qui sont, disons, curieuses sur ce virus et qui nécessitent de savoir comment ce virus a évolué. A-t-il évolué rapidement, naturellement, ou est-ce qu'il a été un peu aidé pour quand des chercheurs ont essayé de comprendre la barrière d'espèce? Et puis, le troisième point, il est entre les deux. Il y a un rapport entre les chercheurs qui exposent leurs travaux et le pouvoir politique chinois qui n'est peut-être pas tout à fait d'accord que la totalité des résultats soit partagée de manière libre et ouverte, comme on a pu voir par exemple dans la suspension d'accès aux databases chinoises. Donc ces trois points de vue sont bien distincts. Nous, d'un point de vue scientifique, effectivement, on s'occupe de savoir quelle est l'évolution du virus et quels sont ces points curieux ou incompris dans l'évolution virale.
Vous êtes un spécialiste, Bruno Canard, des coronavirus. Et vous dites, là, vous venez de me le dire, il y a des choses curieuses sur ce virus. Qu'est-ce qui, avec le SARS-CoV-2, vous, comme spécialiste des coronavirus, vous étonne?
Alors, nous, ce qui nous a étonné, donc avec mon collègue Étienne de Crolly, qui est le premier au laboratoire, a vu cette contagiosité extrêmement importante du SARS-CoV-2 par rapport au SARS-CoV-1. On a vu tout de suite qu'il y avait une contagiosité, une explosion de l'épidémie en janvier qui commençait à être extrêmement importante et qui était très inattendu quand on regarde par exemple la cinétique de donc la vitesse d'apparition des cas du SARS-CoV-1 qu'on avait pu observer en 2003 et l'examen de la séquence du virus et de sa protéine spike a montré que elle était totalement curieuse par rapport au reste du nombre au reste des du génome du SARS-CoV-2, en particulier des propriétés d'adhésion à nos cellules tout à fait remarquables et inattendues de la part d'un virus qui a évolué de la chauve-souris à l'homme très rapidement, et des anomalies, enfin je dirais des curiosités ou des exceptions dans la séquence qui lui confèrent une capacité élevée à être contagieux et transmissible.
Si j'ai bien compris le reportage de France 2, là, il y a un de vos collègues australiens qui témoignait, qui expliquait que un coronavirus qui se transmettrait de la chauve-souris à l'homme demeurerait plus contagieux chez les chauves-souris. Là, l'être le plus contagieux pour le SARS-CoV-2, c'est l'humain. Ça, c'est une curiosité au plan scientifique, n'est-ce pas?
Tout à fait. On peut s'attendre à ce qu'un virus, quand il passe d'une chauve-souris à l'homme, s'adapte progressivement à trouver un récepteur des cellules humaines, et dans ce processus et des caractéristiques d'adhésion aux cellules qui soient attendues. Or là, on voit que le virus est dès le début très adapté à l'homme, comme si il avait subi une évolution rapide. Et effectivement, il a subi une évolution rapide, puisque entre le moment où il a été, ce type de virus a été détecté donc dans la province de Yunnan, dans des grottes où il était dans des chauves-souris. Et le moment où il a fait une pandémie à Wuhan, il s'est passé très peu de temps et il est peu probable qu'il ait circulé à bas bruit. Et donc, il a eu une explosion de rapidité dans son adaptation chez l'homme.
Docteur Canard, la directrice du laboratoire de Wuhan est, semble-t-il, là, une pointure en recherche sur de virologie, de coronavirus. Maintenant, elle semble être aux abonnés absents. Si vous pouviez lui poser une seule question sur l'origine de ce virus-là, ce serait quoi?
Ma question serait, pourquoi... je lui ai déjà posé d'ailleurs par Twitter interposé, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, pourquoi dans l'article de découverte du virus et de la publication de la séquence, donc le 13 février 2020 dans Nature, où il y a 29 auteurs du WIV, hein, de cet institut renommé, pourquoi ils n'ont pas décrit une des capacités, un des aspects extrêmement importants dans la séquence de ce virus qui lui permet, hein, c'est le fameux site de clivage à la furine, qui lui permet d'avoir cette infectiosité élevée et ses caractéristiques d'adaptation extrêmement importantes chez l'homme. Et c'est une caractéristique que 29 auteurs chinois spécialistes des coronavirus ont forcément vu, forcément, puisqu'ils ont travaillé sur ce style de séquence pendant des années. Or, ils n'ont pas du tout parlé de ce point-là. Ça a été totalement omis. Et cette omission me pose un vrai problème.
La Chine est une dictature. Si on était face à des chercheurs belges, des chercheurs canadiens, des chercheurs français... des chercheurs de pays démocratiques, est-ce qu'il y aurait autant d'angles morts?
Je pense qu'il y aurait une pression de la société, des différentes sociétés, des pays dont vous m'avez parlé, qui exigerait l'ouverture des archives, des cahiers de labo. Vous savez, quand il y a eu une centaine de tubes qui ont été perdus du SARS-CoV-1 à l'Institut Pasteur, il y a quelques années, ça a déclenché une enquête immédiate avec des sanctions, le système de contrôle a fonctionné. Et je pense que dans les pays que vous me citez, il y aurait forcément une enquête, une pression sociétale pour savoir d'où vient cette pandémie. Il est extrêmement important de comprendre d'où elle vient cette pandémie. Si elle vient naturellement, on saura prendre des mesures pour s'en préserver. Si elle est venue parce qu'il y a une mauvaise manipulation, on saura s'en préserver de manière complètement différente, mais on saura aussi s'en préserver. Mais si on ne sait pas d'où elle vient, on ne saura pas quoi appliquer comme règle pour éviter une pandémie, une future pandémie. Donc oui, je pense que dans des pays démocratiques, le contrôle aurait été douloureux, mais il aurait été fait.
Dernière question. La Chine est une dictature. Pensez-vous qu'on va un jour pouvoir éclaircir, Dr Canard, quelle est la vérité? D'abord, il y a deux options. Est-ce que ça s'est transmis naturellement d'un animal à l'homme ou est-ce que ça s'est transmis artificiellement d'un laboratoire à l'homme? Pensez-vous qu'on va savoir la vérité un jour?
Je pense qu'on finira toujours par savoir la vérité. Il y a simplement, en l'état actuel, ce sont des probabilités et la probabilité d'une origine naturelle existe, la probabilité d'une origine, d'une fuite de laboratoire existe aussi et on restera à l'état de probabilité tant que les cahiers de laboratoire et la coopération et l'investigation n'aura pas été totale et ouverte. Mais je pense que le plus probable... et qu'un jour ou l'autre, il y aura quelqu'un qui mettra cette vérité sur la table pour une raison ou pour une autre, et la vérité finit toujours par triompher. Donc je pense, oui, je suis très optimiste. Reste à savoir quand cela va se passer, et est-ce que d'ici là, on n'aura pas justement pris des mauvaises options pour éviter une troisième pandémie.
Immense merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Je sais qu'il est assez tard en France. Merci, Dr Canard.
Je vous en prie, merci beaucoup.
«
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
C'était dans la presse ce matin des chercheurs qui ont analysé là en Grande-Bretagne les titres d'environ 130 000 vidéos porno sur trois plateformes bien connues là, pour constater que les scènes à caractère illicite ou violent sont régulièrement en vedette sur les pages d'accueil de ces sites pornographiques très fréquentés. C'est un dossier qui est signé Marie-Claude Malbeuf dans la presse. Elle est au bout du fil. Salut Marie-Claude.
Salut Patrick.
On accueille aussi Christian Joyal qui est cité dans le papier Les professeurs de psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières et aussi chercheur au Centre international de criminologie comparée. Professeur Joyal, bonsoir.
Bonsoir Patrick.
Ben, Marie-Claude, peut-être commencer par résumer là ton article qui faisait écho à une étude qui a été publiée dans le British Journal of Criminology.
Oui, OK. Donc les chercheurs ont créé un programme informatique qui, pendant chaque mois, à chaque heure, capturait les titres qui se trouvaient sur la page d'accueil de trois grands sites gratuits. Donc, la page d'accueil, c'est la page sur laquelle on tombe spontanément quand on arrive sur le site. Et les sites en question sont plus visités que Netflix, là, individuellement. Mmh. Donc, c'est vraiment très populaire. Alors, ce qu'ils ont constaté, eux, ils ont pas analyser le contenu des vidéos elles-mêmes. Ils se sont fiés au titre en se disant, ben avec le titre, on annonce le contenu. On veut faire un marketing, on veut attirer des clients. Et ils ont constaté qu'à peu près une vidéo sur huit portait un titre qui décrivait des choses qui seraient illicites dans la vraie vie ou carrément très violentes dans certains cas.
Illicite, là, je lisais ton papier, là. Illégal dans le sens de d'inceste, par exemple.
Oui, il y a des choses très graves, comme l'inceste. Il y avait à peu près 1400 vidéos qui évoquaient des relations sexuelles père-fille, en termes parfois assez crus.
OK. Et en termes de violence, là, bon, mais là, pas besoin de faire un dessin, là, la palette est assez large. Cette étude-là, professeur Joyal, vous l'avez qualifiée dans l'article de Marie-Claude Malbeuf, vous l'avez qualifiée d'un peu mal faite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben, la première chose, c'est leur définition de violence. C'est clair que quand on définit la violence d'une façon si large, là, impliquant, par exemple, d'attacher quelqu'un à un lit lorsque c'est consensuel, des trucs de voyeurisme, par exemple. Mm-hmm. Et surtout, c'est que, comme Marie-Claude vient juste de dire, les chercheurs se sont basés sur des titres de vidéos. Jamais ils ont regardé des vidéos. Fait que il y a deux trucs différents là-dedans. Là. C'est que ils n'ont pas vu des vidéos et le titre, souvent, comme mettons inceste, là, genre Daddy ou bon, ben ça veut pas dire que c'est vraiment ça qui était dans la vidéo. Fait que ça, c'était un problème numéro un. Puis l'autre problème, c'est que les auteurs ont dit, ben nous autres, on est vraiment contre la porno, fait que notre agenda, là, en mauvais français, c'était de d'être contre ça. Fait que il y a comme 12% des vidéos qui donnent de la violence en partant. Mais comme je disais, la définition de la violence est beaucoup trop large, à mon avis.
OK. Est-ce qu'il y a une quelconque valeur à cette étude-là, selon vous?
Ah oui, quand même.
Laquelle?
Quand même. Ben, c'est que le premier truc, c'est qu'il y a quand même des vidéos qui vont dépeindre de la violence, comme par exemple un viol. Puis même si c'est comme un film de Tarantino, par exemple, c'est un film, c'est pas la réalité, mais quand même. Ça a l'air vrai, tu sais. Donc, il y a quand même quelque chose de sérieux là-dedans.
OK, Marie-Claude, je reviens à toi. Qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans? Parce que tu es tombé sur l'étude britannique de ces chercheurs-là. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans les conclusions de l'étude?
Ben, c'est les titres, en gros. Finalement, c'était ça, la nouvelle. Certains titres sont vraiment crus. Je peux même pas les répéter tellement c'est cru.
Non, on a la liste, puis on a décidé, là, comme on est une radio grand public, on va pas répéter.
Exactement, mais ça fait un peu dresser les cheveux sur la tête. C'est sûr que la chercheuse a reproduit les pires titres. Là. Oui. Comme le dit le professeur Joyal, sa définition est extrêmement large, fourre-tout. Mais il y a quand même une sous-portion des vidéos qu'elle qualifie de violentes qui le sont vraiment. Donc, l'idée, c'était, elle a dit, ben, est-ce que ça pourrait influencer des jeunes qui arrivent, qui débarquent là par hasard pour la première fois? Puis même si la vidéo, c'est pas tout à fait ça, les titres, le marketing, la façon dont on les attire, c'est comme leur envoyer le message d'après elle que ben c'est cool, c'est banal, c'est normal, voilà, aime ça.
Oui.
Donc, c'est ça qui l'inquiétait. Je trouvais ça quand même intéressant.
Professeur Joyal, on parle des jeunes. Moi, j'ai grandi à l'époque où, je veux dire, t'étais chanceux si ton père avait oublié un Playboy dans le garage, là, pour faire fonctionner ton imaginaire. Aujourd'hui, avec quelques clics, on peut être ado, entrer dans un univers qui a aucun bon sens. Est-ce qu'on sait si ça a un impact dans le réel, est-ce qu'on sait si la porno chez les jeunes les pousse à reproduire ce qu'ils voient?
Oui, on le sait. Et puis je suis d'accord parce que moi, je suis encore plus vieux que vous. Puis moi aussi, j'étais chanceux si mon père avait un Playboy dans son garde-robe. Mais pour répondre à votre question, oui, on le sait parce que depuis 10 ans, il y a des études longitudinales qui sont très bien faites. Où on voit la porno qui est consommée à 14-15 ans et 10 ans plus tard, ce que les gens font dans leur vie. Et la grande majorité des gens, il n'y a pas de lien. T'sais. Le problème, c'est qu'il y a toujours une minorité de personnes qui sont plus à risque et qui ont des prédispositions. Mais c'est le même parallèle avec la violence à la télé, avec les true crimes qu'on voit sur Netflix. Quand tu vois un tueur en série, ça devient pas ton idole d'habitude. Mais il y a quand même une minorité de personnes qui, oui, ça devient leur idole, puis qui vont faire la même chose.
Si je comprends bien ce que vous me dites, là, c'est si on a cette craque-là qui nous pousse à tomber dans les violences sexuelles, on l'aurait eu de toute façon, qu'importe les stimuli de l'époque.
Exactement comme Jack the Ripper, il n'y avait pas d'Internet dans son temps, ça ne l'a pas empêché de faire ça.
OK, Marie-Claude, un aspect troublé. Qu'est-ce qui t'a le plus troublé, toi, dans ta discussion avec la chercheuse, puis quand tu as plongé dans cette étude-là?
Ben, je vais me répéter un petit peu, mais c'est vraiment les titres. Je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait aller jusque-là. Là. Tu sais, on parle des mots, vraiment, je ne vais pas dire les titres au complet, mais annihiler, détruire, torturer, poignarder. Déchirer, c'est pas des mots banals. Ces mots-là, j'imagine un jeune qui tombe ça pour, là-dessus pour la première fois, mais ça se peut que ça soit très désagréable, même si ça l'entraîne pas à faire la même chose. On peut se demander pourquoi c'est là, en quoi c'est nécessaire. Donc, c'est une question là, au-delà du fait que ça va les inciter à agir ou pas.
Les sites qui ont été analysés là, par les chercheurs britanniques, c'est X-Hamster, X-Vidéo et Pornhub. Est-ce qu'il y a une des plateformes qui était moins violente, entre guillemets?
Oui, étonnamment, Pornhub, ça fait 6 mois qu'on en parle depuis l'enquête du New York Times qui a révélé que des femmes disaient justement avoir toutes les peines du monde à faire retirer les vidéos de leurs agressions. Mais c'est la moins pire, finalement, la plateforme la moins pire. La pire, c'est X-Videos. Il y avait quand même presque le double en termes de pourcentage là, de proportion de vidéos violentes. Et puis, c'est pas si surprenant, là, parce que ça, c'est passé sous le radar, mais le New York Times a publié une suite à son enquête qui concernait X-Videos. Puis dans la suite, le journaliste écrit que X-Videos a encore moins de scrupules que Pornhub. Donc, tous les regards se sont dirigés vers la même plateforme, mais c'est un peu toute l'industrie là, qui est en cause et qui peut déraper par moment.
Mais professeur Joyal, récemment, là, je lisais un papier, je ne me rappelle pas dans quel média américain, où on parlait d'une montée de la porno qui est basée sur... On évoque l'inceste. Je veux dire, on ne met pas en scène là, des gens qui sont parents, mais on l'évoque. C'est le beau-frère, c'est deux demi-frères, demi-sœurs, etc. Là, on sort d'une époque où... On s'en va vers une époque où la porno est quand même de plus en plus, je dirais, troublée. Là. C'est, vous et moi, on a vécu l'époque des magazines, on parlait de Playboy. Là. Aujourd'hui, je veux dire, le buffet, il est assez complet, là.
Oui, exactement. Puis ça fait même l'objet de ce chapitre de livre au complet, parce que quand on parle d'inceste, c'est effectivement un des intérêts les plus grands de sites porno, puis honnêtement, on comprend pas pourquoi. Évidemment, c'est pas du vrai inceste, là, mais quand même, là, que c'est quoi le trip, là, d'être avec la belle-sœur ou avec le beau-frère ou avec whatever, tu sais, incestueux. J'avoue que c'est très, très, très populaire, puis que on se perd en conjoncture là-dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'intérêt là-dessus? Ça, c'est vraiment pas clair. Vraiment pas clair.
Est-ce que ça devrait être réglementé?
Ben là, c'est une excellente question, ça. Moi, je pense que oui. Pas la question de so-called inceste, là, mais la question de mettre en film, en vidéo, des trucs qui laissent paraître qu'il y a un viol, par exemple. Là. Puis ça, il y en a plein, là, les snuff films, là, c'est très populaire, ça aussi. Puis ça, je trouve ça déstabilisant. Ça devrait être réglementé, puis là où on devrait tracer la ligne, selon moi, là, c'est la question de consentement. Fait que si la personne se fait violer, évidemment, elle n'est pas consentante, puis c'est la même chose avec tous les trucs violents, mais ça a l'air d'être pas consentant, puis se l'est mis en film. Puis le deuxième truc que je trouve déstabilisant, c'est accessible à tous, incluant des adolescents.
Non, on clique qu'on a 18 ans, puis ça marche. Là.
Ben oui, c'est une vraie joke. Ça, c'est une vraie joke. Puis la pédophilie, ce qu'on regarde avec des enfants, c'est que les fournisseurs de hard drive, puis il y en a plein à Montréal, là, il y a eu plein d'articles là-dessus dernièrement, sont pas tenus responsables du contenu de ce qu'il y a dans leur hard drive, alors que c'est de la pornographie juvénile.
Merci à vous deux.
Merci, papé.
Salut. C'était Marie-Claude Malbeuf, journaliste à La Presse. Son papier de ce matin parlait d'une dérive en pornographie où on insiste de plus en plus sur des scènes illicites, sur des scènes violentes. Il paraît qu'il y a un grand public pour ça. Et Christian Joyal, professeur de psychologie à l'UQTR et chercheur au Centre international de criminologie. J'ai de la misère avec ce mot-là. C'est comme difficile pour M. Legault. De criminologie comparée. Est-ce que vous connaissez l'astéroïde Psyché 16? Il fascine la communauté scientifique parce qu'il pourrait être composé en grande majorité de métal. Ça, il semble que ce soit surprenant. La NASA, l'année prochaine, va envoyer une sonde pour tenter d'en savoir plus. On va en parler avec Loïc Albert. Il est astrophysicien à l'Institut de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal. C'est un spécialiste d'instruments astronomiques. Il travaille notamment là sur, appelons ça, la Rolls-Royce des télescopes spatiaux, le James Webb qui est en construction. Loïc Albert, salut!
Oui, bonjour Patrick Lagacé.
Où se trouve Psyché et comment on va y arriver?
Oui, alors Psyché, ben il se trouve, c'est dans la ceinture d'astéroïdes. C'est peut-être 100 000, 200 000 de billes de roche qui orbitent entre la planète Mars et la planète Jupiter. Et donc, entre les deux, là, c'est la ceinture d'astéroïdes. C'est pas comme dans les films, quelque chose avec des astéroïdes qui se frappent l'un contre l'autre tout le temps, mais il y a quand même beaucoup d'objets à cet endroit-là. On pense en fait qu'il y a une partie de ces astéroïdes-là qui proviendrait d'un corps qui aurait été plus gros, qui se serait désintégré.
Ce qu'on dit, là, c'est que dans cette ceinture d'astéroïdes, il y a Psyché 16. Et Psyché 16 est différent en quoi des autres astéroïdes?
Oui, bien c'est là que ça devient vraiment intéressant, en fait. C'est que Psyché 16 est composé, on pense, de métal. Puis pourquoi c'est intéressant qu'il y ait du métal? Bien, s'il faut suivre un peu la petite histoire entre le lien entre les astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes et les météorites qu'on a sur Terre. Sur Terre, vous savez bien sûrement qu'il y a des météorites qui tombent du ciel et qu'on étudie et on peut, ce qui est assez formidable, c'est de prendre des spectres, des signatures de la lumière réfléchie par ces météorites sur Terre et d'essayer de voir s'il y a une correspondance dans l'espace. On sait qu'ils viennent de l'espace, mais d'où? Et sur Terre, donc, on a trouvé plusieurs classes de météorites. Et la plupart, ben, c'est des roches. Hein? C'est de la roche qui tombe. Et puis, mais il y a une certaine fraction très petite, là, quelques pourcents, qui sont des météorites de métal. Et c'est là le lien avec Psyché 16. C'est que si on regarde l'empreinte spectrale des météorites de métal qu'on a sur Terre, ben on a exactement le même match avec Psyché 16 comme astéroïde à 400 millions de kilomètres. Donc, on pense qu'il y a certains météorites dans la classe des mésosidérites qui viendraient de leur mère Psyché 16, en fait. Et pourquoi ce serait du métal? Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est qu'on pense que Psyché 16, ce serait le restant du cœur d'une ancienne planète qui était.
Donc, une planète
Mars.
Qui aurait explosé?
Ben, c'est
ça. Ça serait désintégré?
Exactement. On sait que dans la ceinture d'astéroïdes, c'est un endroit qui est gravitationnellement instable parce qu'il y a la planète Jupiter pas loin qui a tendance à faire du brassage gravitationnel et à faire des collisions entre les objets. Donc, les objets se brisent. Donc, si une planète s'est formée là, elle se serait ensuite, il y aurait eu des collisions, elle se serait carrément désintégrée. Elle aurait laissé des gros morceaux un peu partout, dont Psyché 16. Et on pense que quand une planète se forme comme la Terre, il y a un phénomène physique qui se produit, c'est la différenciation chimique. C'est-à-dire que ce qui est lourd comme les métaux, ce qui est dense, mais ça a tendance à couler vers le centre de la planète par la gravité, puis ce qui est plus léger, moins dense, ben flotte, un peu comme la laque.
Et c'est pour ça qu'on aurait un noyau dur très, très dense au centre de la Terre, c'est ça?
Exactement. On pense qu'au centre de la Terre, il y a un noyau de fer, de nickel, entouré d'un manteau de roches plus moins dense, c'est-à-dire comme des silicates et puis des carbonates. Et ça, il y aurait la même chose qui se serait produite dans la planète, dans la ceinture d'astéroïdes, qui serait maintenant désintégrée. Donc, on aurait affaire, ni plus ni moins, à un noyau de planète. Et c'est ça qui est quand même, quand on y pense, on va avoir la possibilité d'étudier en détail le noyau d'une planète terrestre. C'est comme si on était capable d'aller dans notre propre planète pour aller étudier en détail ce qui se passe.
Parce que c'est ça, là, la NASA va envoyer une sonde là-bas l'année prochaine. D'abord, la sonde va mettre combien de temps à se rendre entre Jupiter et Mars?
Oui, elle va prendre plusieurs années. Donc, c'est envoyé en 2022. Il y a un voyage qui va passer par à côté de Mars pour aller tirer un petit peu de jus ou d'énergie gravitationnelle de Mars, pour aller jusqu'à Psyché. Et on va être à Psyché en mai 2023. On va y rester à peu près 2 ans. Alors, ce qui est particulier avec la sonde Psyché, qui a le même nom que l'astéroïde qu'elle étudie, c'est qu'elle a un moteur à propulsion Dion. C'est quelque chose qu'on a tous vu dans Star Trek, là, pour les plus vieux d'entre nous. Star Trek, l'Enterprise, fonctionne avec un des deux moteurs, c'est un moteur à propulsion d'ion. Donc, c'est quelque chose qui existe pour vrai, qui a déjà été démontré dans l'espace. Il y a une autre sonde précédente qui avait fait un survol d'astéroïdes comme ça avec un moteur similaire. Donc, ça prend l'électricité du soleil avec des panneaux solaires gigantesques. Ça accélère des ions de xénon à très haute vitesse, puis ça se propulse tranquillement, pas vite, mais continuellement, ce qui fait que c'est capable d'aller jusqu'à la ceinture d'astéroïdes.
Dernière question. Qu'est-ce que l'humanité a à gagner à connaître la composition d'un immense rocher qui orbite aux confins de l'espace?
Ben là, il y a deux réponses à ça. Celle que je préfère vraiment, c'est qu'on va enfin en apprendre plus sur comment exactement le noyau d'une planète se forme. Est-ce que nous, on a une vision très simpliste pour l'instant, que c'est un noyau pur de fer et de nickel, mais on sait déjà que Psyché 16 a des structures. On est avec le télescope Hubble actuellement, de très très loin, on arrive à deviner un petit peu des structures sombres et plus brillantes sur la surface. Donc, ça va nous apprendre comment se forment les planètes telluriques comme la Terre, Mars, Vénus, etc. Donc, la réponse, en fait, c'est ce que j'ai vu beaucoup aussi dans les médias, c'est que on va découvrir essentiellement des millions de tonnes de métal, de nickel, de fer qui ont une valeur commerciale, mais qu'évidemment, on ne sera jamais capable de rapporter ça. D'ailleurs, la sonde ne va pas se déposer sur l'astéroïde, elle va seulement le survoler en orbite.
Vraiment très intéressant. Toujours intéressant de parler d'astrophysique et d'espace avec vous, Loïc Albert. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir.
Ça me fait plaisir.
Salut, Loïc Albert est astrophysicien à l'Institut de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal.
Patrick Lagacé en accéléré. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à Patrick Lagacé en accéléré sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un balado C23 produit par le 98.5. Un nouvel épisode chaque soir en semaine vers 19h30.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.